Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Loridon et Rosalie Suc, réalisée par Anna Olvec et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler ce matin d'Amérique latine. Après 14 ans à la tête de la Bolivie et un dernier scrutin contesté, Evo Morales a fini par annoncer sa démission dimanche dernier, s'exilant dans la foulée vers le Mexique voisin. Le président socialiste laisse derrière lui un pays en crise, avec une présidente par intérim qui a nommé un gouvernement, qui a annoncé la tenue de nouvelles élections, mais sans parvenir à apaiser la situation, puisque les manifestations se poursuivent. Que se passe-t-il en Bolivie? Que révèle cette crise de la situation économique, sociale et politique du pays? Et au-delà, que nous dit-elle de l'état de la démocratie en Amérique latine? En effet, d'autres pays de la région sont en prise à de fortes tensions. Au Chili, où les manifestations se sont enchaînées contre la politique libérale de Sebastián Piñera, mais aussi en Argentine, en Équateur, au Nicaragua, au Venezuela, évidemment, où Nicolas Maduro s'accroche au pouvoir malgré les efforts de l'opposition qui cherche à l'en déloger. Sans oublier le Brésil, évidemment, où pour le coup, l'opposition exulte puisque l'ancien chef de l'État, Lula, est sorti de prison et n'a pas tardé à annoncer son retour lors d'un discours enflammé face à des centaines de militants venus l'accueillir. Mais où va l'Amérique latine? Quelles sont les racines de ces crises qui traversent le sous-continent, l'Amérique latine d'une crise à l'autre? Pour évoquer ces sujets, nous avons invité ce matin Jeannette Abel. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, chercheuse à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. À vos côtés, Sébastien Velu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à Sorbonne Nouvelle et membre de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Avant de se plonger dans le sous-continent américain, place à notre retour d'eux avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Kiev, c'est Charles Laquet. Bonjour Charles Laquet.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'Express, on vous reçoit pour un papier qui sera publié dans quelques jours sur le site de l'Express, mais aussi en version papier. 7 mois après l'élection du nouveau président Volodymyr Zelensky, les choses semblent se corser pour ce dernier, on va le voir ensemble. Charles Laquet, votre reportage s'ouvre sur une image très forte. On est sur la ligne de front le 9 novembre dernier. Une fusée éclaire le ciel de sa lumière blanche. Une autre à quelques centaines de mètres lui répond. Les soldats ukrainiens reculent d'un kilomètre. Les forces pro-russes font de même. C'est un moment évidemment éminemment important, symbolique, mais aussi éminemment important sur le plan politique, géopolitique, puisque c'était la condition pour ouvrir de nouvelles négociations. Est-ce qu'on a désormais, maintenant que les deux lumières blanches se sont répondues, une petite idée du calendrier des futurs pourparlers, du format dans lequel les négociations pourraient se passer?
Alors, effectivement, les conditions sont requises, sont là, c'est ce que dit tout le monde. Le calendrier n'est pas établi parce que Vladimir Poutine joue un peu la montre, enfin, ça bouge un peu tous les jours. Ceci étant, il semblerait que ça puisse avoir lieu fin novembre ou début décembre.
Donc, dans le format Normandie, c'est-à-dire?
Voilà, un format Normandie quadripartite où on retrouve les présidents russes et ukrainiens, le président français et la chancelière allemande. Donc les quatre ensemble, c'est un format qui existe depuis quelques années et qui pourrait permettre de trouver une issue à ce conflit qui déchire le pays, qui déchire l'Ukraine depuis 5 ans.
Mais qui a l'air en tout cas d'inquiéter un certain nombre d'Ukrainiens qui considèrent que ces nouvelles négociations pourraient être une manière de donner à Poutine ce qu'il veut. En tout cas, on a peur que Zelensky se présente en position de faiblesse par rapport au président russe.
Oui, c'est ça. C'est vrai que la société civile, un certain nombre d'opposants sont très inquiets, très fébriles. Parce que ce format et ces négociations pourraient permettre de donner aux régions de l'Est, Donetsk, Lugansk, un statut autonome, vraiment un statut particulier qui pourrait permettre un accord de paix. Il y aurait également des élections locales qui seraient décidées, qui auraient lieu. Le problème, c'est que pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est juste impossible, non négociable, parce que ça voudrait dire, finalement, permettre à une région d'être un peu différente des autres. Et peut-être aussi se comporter, avoir une sorte de droit de veto sur un certain nombre de réformes, de politique intérieure, pourquoi pas aussi empêcher le pays d'aller vers l'OTAN, de rejoindre l'OTAN, de rejoindre l'Union européenne. C'est-à-dire que beaucoup d'Ukrainiens pensent que c'est une sorte de cheval de Troie de Vladimir Poutine pour garder le contrôle sur l'est du pays et de facto sur le pays tout entier.
Et ils ont raison. Vous pensez qu'au-delà de la question de savoir si effectivement ça pourrait être une forme d'enclave pro-russe à l'intérieur du territoire ukrainien, le pouvoir de nuisance serait réel?
Le pouvoir de nuisance pourrait être réel, tout dépend en fait du résultat des élections locales. En fait, les élections auraient lieu dans ces deux régions. Si jamais les candidats inféodés à Vladimir Poutine parviennent à gagner, comme ça a été le cas lors des législatives anticipées en juillet dernier, effectivement, là, on pourrait imaginer qu'ils fassent tout pour faire peser le pays du mauvais côté, enfin, en tout cas, du côté est. Ça dépend de ça, en fait. Volodymyr Zelensky, en revanche, nouveau président ukrainien, espère qu'il aura le pouvoir, le charisme pour emporter le morceau et faire en sorte que la région bascule du côté de Kiev.
Mais pourquoi faudrait-il en douter? On se souvient, il y a quelques semaines, début septembre, qu'il y avait eu cet échange de prisonniers entre Kiev et Moscou, qui concernait 70 personnes, dont le cinéaste Oleg Sentsov, qu'on a entendu cette semaine au micro de France Culture dans la matinale. Après tout, c'était peut-être un signe que précisément Zelensky arrive à discuter avec Poutine et arrive à obtenir des choses, non ?
Oui,
tout le monde ne le voit pas comme ça.
Non, il arrive certes à obtenir des choses, mais il a 41 ans, il est novice en politique, ce qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Face à lui, il y a quand même le madré, le redoutable animal politique Vladimir Poutine, qui, on peut l'imaginer, arrivera dans ses élections, si elles ont lieu un jour, d'une façon un peu traditionnelle, c'est-à-dire en essayant de noyauter les pouvoirs locaux, les médias locaux, de vraiment infléchir la décision. Après tout, rien n'est fait, parce que Zelensky, de son côté, il a quand même une arme puissante, il a les médias, il a sa capacité à entraîner quand même par son charisme, son dynamisme. D'ailleurs, l'un des principaux vecteurs, c'est quand même la série Serviteur du peuple, dans laquelle...
Qu'il a rendu si populaire.
Hein. Voilà, exactement, lorsqu'il était candidat, il était avant, donc acteur, et il jouait son propre rôle, il jouait le rôle d'un professeur qui devient un président excédé par la corruption, qui devient le héros national. Et cette série continue toujours, et d'ailleurs, il faut voir que...
Mais c'est plus lui qui joue.
Il ne joue plus, mais il a encore un certain nombre en avance qui permettent quand même de le voir à l'écran un peu tout le temps. Donc, ouais. Il est toujours en permanence, il y a des rediffusions. Et d'ailleurs, récemment, ce qui est très intéressant, ce qu'un politologue local me faisait remarquer, c'est qu'il y a 3 épisodes de cette série Serviteurs du peuple qui mettent en scène des mineurs dans l'est du pays qui se retrouvent prisonniers, comme ça a été le cas en Amérique latine, prisonniers dans une veine de charbon, qui sont sur le point de mourir, une tension dramatique extrême. Et à ce moment-là, Zelensky, le nouveau président, arrive avec des hommes, des ingénieurs de l'ouest de l'Ukraine et sauve les gens de l'est. Et c'est donc la fraternité, le pays est réunifié. Et ça peut paraître un peu mièvre quand on le dit comme ça, mais quand on est dans l'est du pays, des habitants qui n'ont pas internet, qui ont juste la chaîne de télévision locale et qui voient cette série, ça a un effet, un impact énorme. D'ailleurs, rappelons quand même qu'au moment des élections, certaines personnes que j'avais interviewées, notamment dans le centre du pays à Dnipropetrovsk, lorsque je leur demandais si elles avaient lu le programme de Zelensky, ils disaient
« Non, mais j'ai
besoin.
Vu la série.
J'ai vu la série, c'est dedans, pas besoin. » Donc voilà, donc il y a vraiment une confusion, une ouais. Et c'est possible que ça joue un rôle. Donc rien n'est gagné parce que le modernisme finalement de Zelensky peut-être faire bouger les choses. Mais bon.
Alors, Charles Laquet, on reviendra peut-être sur son rapport aux médias justement, mais on parle de l'est de l'Ukraine. Mais ce que vous dit Pavlo Klimkin, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Petro Poroshenko, c'est que les Occidentaux précisément sont beaucoup trop focalisés sur la question de l'est de l'Ukraine. Le véritable enjeu, dit-il, c'est la Crimée. Ce que veut Poutine, c'est entériner l'annexion de la Crimée. C'est ça le vrai sujet.
C'est ça. Alors moi, je l'ai. En fait, il était très difficile à intercepter cet ancien ministre des Affaires étrangères. Il parle pas beaucoup, mais il y a un endroit où il est toujours. Donc, je l'ai attendu dans le hall de l'hôtel pendant 1h30 et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Et effectivement, il m'a dit.
La patience.
C'est ça, exactement. Il m'a dit, écoutez, c'est vrai qu'on tombe dans le piège tendu par Poutine. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut, Vladimir Poutine? Pour lui, ce qui se passe, la guerre, c'est juste une façon comme ça de tirer l'attention. Mais c'est même pas un élément de négociation. Pour lui, c'est un accord global qu'il veut et il veut entériner le sort de la Crimée. que finalement on accepte que la Crimée retourne et soit annexée de façon définitive, et éventuellement il servira à ce moment-là de la paix comme du monnaie d'échange. Donc négocier et bâtir un cadre de négociation trop restreint autour de ce format Normandie et de cet accord de paix, pour lui ça occulte le reste, et ça, le danger c'est que la Crimée tombe par perte et profit.
Deux questions. La première, est-ce que dans le futur format Normandie, il est prévu que justement on parle de la Crimée? Parce que jusqu'ici,
non,
c'est resté à l'écart.
C'est
en dehors. Deuxième question, est-ce que on connaît les positions de Zelensky sur la Crimée? Est-ce qu'il est prêt concrètement à la lâcher à Poutine?
Il en parle pas beaucoup, effectivement. Je pense qu'il a pas tellement envie de soulever l'ire de Vladimir Poutine. Je pense qu'il a vraiment envie. Il est très pressé. Et il veut un accord de paix. Et donc, je pense que lui, il veut vraiment, pour son électorat, qui commence un petit peu à fléchir, je pense qu'il veut vraiment montrer qu'il y a un accord de paix sur le sol ukrainien. La Crimée, on verra après. Je pense que les gens en Ukraine, notamment à Kiev, ne sont pas d'accord. Et ils aimeraient bien que la Crimée fasse partie du cadre de négociation.
Vous parliez tout à l'heure de la série et du rapport de Zelensky aux médias. Vous expliquez aussi dans votre papier, Charles Lacquet, qu'il y a peut-être un déficit aujourd'hui de communication. C'est-à-dire qu'à la fois, il sait parfaitement jouer, en tout cas pendant la campagne, il l'a montré, il sait parfaitement jouer avec les médias, il les a parfaitement utilisés. Mais aujourd'hui, visiblement, il y a un déficit à ce niveau-là. Par exemple, la fameuse issue politique que vous évoquiez, qu'on appelle la formule Steinmeier, du nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, aujourd'hui président fédéral de l'Allemagne. Cette issue politique, elle est arrivée aux oreilles de l'opinion par voie de presse, absolument pas par la voie normale qui est celle de l'exécutif.
Non seulement par voie de presse, mais en plus par les médias russes. Et ça, pour des Ukrainiens, c'est quand même le signal que cet accord, il est finalement fait et dirigé par des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Ça peut être les Russes, ça peut être l'Europe de l'Ouest, mais pas par les Ukrainiens. Ça vient pas de Kiev, ça vient pas du pouvoir. Donc, il y a une méfiance qui s'est créée, qui s'est insinuée et qui n'est pas du tout dissipée. Et Zelensky a effectivement fait une conférence de presse marathon d'une dizaine d'heures. Il en est sorti épuisé, il n'arrivait même plus à tenir debout. Mais c'est trop tard. Et effectivement, il y a un vrai problème de communication, ce qui est effectivement, comme vous le dites, très, très paradoxal, de Monsieur Instagram. Il est capable vraiment il maîtrise parfaitement les réseaux sociaux. Et là, il a commis une erreur majeure.
Est-ce que c'est seulement un problème de communication ou c'est plus grave que ça, docteur? Vous avez rencontré notamment Butnik Anatoli, qui est un coordinateur d'un réseau d'associations citoyennes. Et lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'à plusieurs reprises, ils ont proposé, lui et les militants avec lesquels il travaille, d'apporter leur expertise sur un certain nombre de réformes, notamment sur la question de la réforme de la justice, mais que le gouvernement ne les a jamais entendus, les a jamais écoutés. On a un problème qui est plus grave, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est totalement isolé aujourd'hui?
Oui, totalement. J'ai pas fait totalement le tour de la question, donc je pense pas qu'on peut dire totalement. J'ai vu évidemment des députés du parti majoritaire qui m'ont dit le contraire, évidemment. Mais quand même, pas mal de politologues, effectivement, d'experts de la société civile disaient, on est là, il nous met dans des comités, mais finalement, on n'a pas un grand rôle, on ne joue pas un grand rôle. Quelques experts arrivent quand même un petit peu à aller jusqu'à eux, mais ils sont un peu dans leur tour d'ivoire. Et c'est vrai que c'est le danger qui menace Zelensky, c'est de se sentir, il marche un peu sur l'eau, il a encore des sondages très, très élevés, c'est de se sentir suffisamment puissant pour affronter Poutine, pour emporter l'adhésion au sein du peuple qui, de toute façon, a voté pour lui. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas de majorité forte qui est capable et qui est prête à aller dans la rue pour soutenir Zelensky. C'est pas vrai. En revanche, ses opposants politiques, les nationalistes, mais également les vétérans de la guerre qui, eux, ne veulent pas d'une demi-paix parce qu'ils disent nos frères qui sont morts sur le front de l'Est, je suis désolé, mais enfin, rien qu'en leur nom et pour leur mémoire, on ne peut pas accepter de mettre un terme à ce conflit.
Et donc, eux ont une force de mobilisation beaucoup plus forte.
Très, très actifs. Et on les entend, eux. On n'entend pas la majorité silencieuse.
Alors, il y aura évidemment les discussions sur l'Est ukrainien qui vont conditionner l'avenir politique de Zelensky, mais il y a aussi autre chose, c'est l'économie. Avant d'arriver au pouvoir, Zelensky a dit, vous allez voir, je vous promets 40% de croissance sur l'ensemble de mon mandat. C'était quand même un pari osé, ça veut dire à peu près du 8% par an. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'on est aujourd'hui sur la bonne voie? Est-ce qu'on a les moyens aussi? Parce que pour produire de la croissance, on le sait bien, il faut avoir les moyens d'investir, il l'a. Il les a ?
Non, en fait, il les a pas du tout. La croissance en 2020 est estimée, enfin en fait 2019, début 2020, à 2 à 3% maximum. Ce qui n'est pas nul, mais effectivement, dans le cas de l'Ukraine, c'est pas du tout suffisant pour permettre de restaurer une situation économique satisfaisante. Les investissements directs, donc c'est-à-dire la façon dont les investisseurs étrangers ont ou pas envie d'investir dans le pays, sont très peu élevés, à peu près 1 milliard de dollars. Mmh. Et donc, le pays reste à la traîne, il est un des plus pauvres d'Europe, et pour les Ukrainiens, Zelensky, qui leur avait promis, par exemple, que le gaz ne serait plus payé, notamment pour les retraités, pour eux c'est extrêmement important. C'est comme le prix de l'essence, c'est quelque chose qui peut déclencher vraiment un nouveau Maïdan. Le gaz continue d'augmenter, il le paye toujours. Donc il y a vraiment un problème, c'est qu'il commence à y avoir un petit divorce, un décrochage de la façon dont les gens croyaient à cette personne miraculeuse, et qui finalement reste humaine.
Vous finissez votre papier sur la quai avec les deux alliés encombrant de Zelensky. On va finir avec ça, on va laisser Donald Trump, ça sera le deuxième. Ouais. Le premier, à l'intérieur de l'Ukraine, c'est justement l'oligarque que vous mentionniez tout à l'heure, Ilor Kolomoïski, qui est donc cet homme qui avait cette chaîne de télé sur laquelle était diffusé justement Serviteur du Peuple, cette série qui a rendu Zelensky si célèbre. Alors il l'a soutenu, certes, mais c'était pas gratuit. Et aujourd'hui, le monsieur demande son retour sur investissement.
Exactement, il demande un retour sur investissement qui se traduit par le retour à la reprivatisation de sa banque, qui s'appelle Private Bank. En 2016, le pouvoir l'a confisqué, l'a nationalisé, parce que les autorités financières se sont rendues compte qu'il y avait un trou de 5,5 milliards de dollars dans les comptes de la banque. Ça fait un peu beaucoup, ça fait 5% du PIB du pays quand même. Personne n'a jamais pu prouver totalement l'implication de l'oligarque dans cette histoire. Il y a beaucoup évidemment de soupçons et beaucoup de choses qui ont été dites, et on sait quasiment ce qui s'est passé, mais on ne peut pas l'affirmer de façon totalement catégorique. N'empêche que cet oligarque reste aujourd'hui en toute impunité, très présent dans le paysage politique. On le voit de plus en plus, on le voit parader dans des soirées officielles. Et aujourd'hui, effectivement, il pèse de plus en plus. Il a même une dizaine de députés à sa botte au sein de la Rada, l'Assemblée ukrainienne. Et on peut imaginer qu'il ne va pas se laisser faire, qu'il ne va pas regarder les choses de façon passive.
Mais Zelensky peut accepter ce que lui demande.
C'est-à-dire que s'il accepte de reprivatiser la banque,
le risque politique est énorme.
Aussitôt le public, l'opinion politique se retourne en disant mais c'est qu'une marionnette. On avait raison de se méfier. Donc non, ça c'est pas possible. D'autant plus que le FMI, qui est le principal contributeur au budget de l'État ukrainien, risque aussi. Et d'ailleurs, il l'a dit, il est hors de question qu'on soutienne l'Ukraine et qu'on vous soutienne si vous privatisez la banque. Donc là, il est vraiment un peu entre les deux. C'est un moment très très compliqué pour lui. C'est vraiment un moment clé en Ukraine dans la vie politique. Et c'est d'ailleurs assez passionnant à étudier.
Alors l'autre allié gênant, c'est Donald Trump. Alors on a vu là les premières auditions publiques autour évidemment de cette enquête, toute cette affaire, cette conversation qu'il a eue en juillet dernier avec son homologue Donald Trump à propos de cette demande d'enquête sur le fils de son rival Joe Biden. On sait évidemment les problèmes que ça cause à Donald Trump. Est-ce que ça en cause aussi à Zelensky ?
C'était l'objet de mon reportage. Je me suis dit, bon, allons voir un peu ce qui se passe et est-ce que sur l'homme de la rue, ça a des conséquences ? Beaucoup ne comprennent pas effectivement la complexité de cette affaire. Il n'empêche que dans les cercles les plus informés, politiciens, société civile, il y a une phrase quand même de la retranscription de cette discussion qui fait mal, c'est « Ne vous inquiétez pas, le prochain procureur général sera un homme 100% à moi ». C'est ce que Zelensky dit à Donald Trump à un moment. Et ça souligne la faiblesse des institutions, ça souligne aussi le fait qu'il a le contrôle finalement sur le pouvoir judiciaire. Et pour la société civile qui veut tellement réussir à de nouveau avoir un état de droit, à aller vers l'Occident, à aller vers des valeurs occidentales où vraiment la démocratie soit vraiment installée, c'est juste inacceptable.
Donc il l'a nommé ce nouveau procureur?
Non. Alors c'est compliqué parce qu'à la fois il a nommé, il en a viré un autre. Enfin, ça reste un sujet très 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 fluctuant et aujourd'hui ça reste encore une fois vraiment très très difficile et très douloureux pour la société civile et surtout pour ses opposants politiques.
Et les conséquences, dernier point peut-être sur laquelle, les conséquences sur le plan militaire, parce que Donald Trump, on le sait maintenant, a conditionné l'aide militaire américaine qui doit être à peu près 391 millions de dollars, justement à la bonne volonté de son homologue ukrainien dans cette enquête sur le fils de Joe Biden. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences militaires que ce soutien retiré des Américains à Kiev?
Alors finalement l'aide a été débloquée juste après, mais le soutien psychologique militaire n'est plus là. L'ancien envoyé spécial Kurt Volker a démissionné, il n'a pas été remplacé. Donc il y a vraiment une désaffection américaine. Et effectivement, ça a des conséquences, notamment sur les négociations avec Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, comme plusieurs diplomates me l'ont dit, un petit coup de pouce américain, un petit coup de pression américain au bon moment, ça aurait été vraiment très utile.
Et là, malheureusement, il est pas là. Et on ne peut pas compter dessus.
Exactement.
Merci beaucoup, Charles Lacaille, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter à l'Express et que donc on peut retrouver le papier autour duquel nous avons échangé ce matin sur le site de l'Express et aussi très bientôt en papier la semaine prochaine.
Exactement.
Merci beaucoup, Charles Lacaille.
Merci. Збросив мундір, ще очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.
Allez, on va quitter l'Ukraine, on va prendre la direction de l'Amérique latine qui va d'une crise à l'autre, cette Amérique latine.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Cette semaine, la Bolivie s'est enfoncée un peu plus dans la crise. Pourtant, on aurait pu penser que la démission d'Evo Morales aurait permis d'apaiser la situation. Il n'en est rien, puisque son départ vers le Mexique et l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement et de nouvelles élections par son opposante Jeanine Agnès n'a absolument pas réglé le problème.
Vous nous donnez le pouvoir des forces armées. Nos compatriotes vous sont reconnaissants d'avoir contribué à la défense de l'État dans une période de forte adversité.
Si mon peuple le demande, nous sommes disposés à rentrer pour apaiser la situation. Mais le dialogue national est important. Je pense que s'il n'y a pas de dialogue national, il sera difficile d'arrêter le conflit.
Et effectivement, ce conflit, il continue. On entendait Jeanine Agnès, donc la vice-présidente du Sénat, et autoproclamée présidente par intérim devant les principaux représentants de l'armée et de la police, Evo Morales, qui depuis son exil mexicain se dit prêt à rentrer au pays. Et puis au milieu, une société bolivienne fracturée en deux. Si les comparaisons ont toujours évidemment leurs limites, cette fracturation de la société, c'est un phénomène qu'on retrouve dans bien d'autres pays de la région qui eux aussi traversent des moments difficiles et des crises profondes. Le Venezuela, le Brésil, l'Équateur, on en parlera. Comment comprendre cette crise globale qui traverse la région? Que révèle-t-elle de l'état des démocraties de cette Amérique latine? Pardon, Jeannette Abel, vous êtes notre invitée ce matin. Merci encore d'être avec nous. Sébastien Velu également. Et puis Marc Semo, notre partenaire du Monde. Marc, il y a 10-15 ans, quand on parlait de l'Amérique latine, tout le monde ou presque saluait les grandes avancées sur le plan économique, politique, social. La croissance était bonne, le développement était au rendez-vous. On a au tournant des années 2000 cette vague rose qui va toucher plusieurs pays de la région, le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Équateur, le Venezuela. Puis on a ensuite un mouvement de balancier dans l'autre sens. Mais on se dit que voilà, c'est une bonne nouvelle. L'alternance pour faire vivre la démocratie, c'est toujours évidemment très bien. Aujourd'hui, ce bilan, il est beaucoup plus contrasté. On a un populisme qui a gagné le Brésil, on a un Venezuela qui s'enfonce dans la crise, une Bolivie maintenant là qui vit une crise post-électorale qu'on n'imaginait pas. Cette décennie 2020, elle va être compliquée pour l'Amérique latine.
Elle va être compliquée, et surtout elle montre une polarisation croissante dans tout le sous-continent, entre d'un côté une gauche qui devient de plus en plus radicale, et de l'autre une droite de plus en plus conservatrice. Alors justement, l'exemple bolivien là-dessus est très révélateur. La première initiative de la nouvelle équipe au pouvoir à La Paz a été de reconnaître comme président du Venezuela le leader de l'opposition Juan Guaido, hein, qui est le président du Parlement, qui s'était autoproclamé chef d'État d'intérim il y a un an contre le pouvoir de Maduro. Et d'une certaine façon, l'opposition bolivienne a réussi ce que l'opposition vénézuélienne jusqu'ici a raté. C'était le renversement par la rue et par l'armée d'Evo Morales, hein, qui était, on le rappelle, le premier président indigène de la Bolivie, accroché au pouvoir depuis 14 ans, y compris par la fraude électorale, et le signe, justement, de cette polarisation croissante. On la voit donc en Bolivie, on la voit au Venezuela, on la voit au Chili comme au Brésil. Et aujourd'hui, ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est que en Bolivie, donc Jeanine Agnès, qui a été adoubé par un parlement, mais boycotté par les partisans de Morales, adoubé par l'armée, qui est déjà reconnu par les États-Unis, mais aussi par la Russie, montre une volonté restauratrice extrêmement affichée, dès le début, hein, même symboliquement, et je finirai là-dessus, son arrivée au pouvoir, c'est « Je jure sur la Bible », et la Pachamama, la grande déesse terre dont Evo Morales, qui était le premier président indigène, avait fait un symbole, est oubliée. Mmh. On réaffirme tous les fondamentaux de ce qu'avait été l'élite au pouvoir de droite en Bolivie, et c'est pour ça aussi qu'il y a urgence d'élections pour donner une vraie légitimité à ce pouvoir.
Même si la Pachamama, Evo Morales, l'avait aussi un peu laissé de côté avec son extractivisme, mais on y reviendra. Jeannette Abadel et Sébastien Velu, peut-être une première réaction. On a effectivement une situation de crise globale dans cette Amérique latine. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va faire ensuite faire le détail.
Je dirais qu'il y a une double crise, hein. Pas une seule crise. En tous les cas, les causes sociales et politiques ne sont pas les mêmes. Il y a d'une part la crise de ce qu'on a appelé la vague rose des gouvernements nationaux populaires latino-américains. Et ce, pour des raisons d'abord économiques, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir sur la base d'insurrections populaires, mais également grâce au boom des matières premières qui leur a permis de mener à bien des politiques sociales qui étaient très importantes et qui sont maintenant dans l'impasse pour des raisons à la fois économiques, sociale et politique. Et il y a la crise du néolibéralisme, c'est pas la même. C'est celle que l'on voit au Chili, c'est celle que l'on a vue en Équateur avec le plan du FMI, c'est celle que l'on voit, c'est ce qu'on voit au Brésil, etc. Donc, le tout donne un panorama d'instabilité politique qui est assez caractéristique du sous-continent, hein, chronique, pour des raisons qu'on n'a pas vraiment le temps d'évoquer ici. Mais ce n'est pas vraiment la même crise. Alors, si on a le temps, on pourra dire
des deux côtés.
Quelles sont les caractéristiques différentes de ces deux situations?
On va avoir l'occasion d'y revenir. Sébastien Velu, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a plusieurs crises, évidemment, mais est-ce que les résultats économiques, qui évidemment sont cruciaux dans ces crises, suffisent à expliquer la situation?
Oui, en fait, ce qui est frappant, c'est que c'est la concomitance de ces explosions dans différents pays d'Amérique latine actuellement, et pour des raisons différentes. Donc, si on regarde, effectivement, les déroulés sont différents, les revendications sont différentes. Et même si les catégories que propose Jeannette Abel sont pertinentes, je pense, pour étudier la situation, on ne peut pas non plus dire que les gouvernements dits progressistes n'étaient pas totalement contre le néolibéralisme dans leur façon de gérer l'économie. Voilà. Donc ça a pu aussi entraîner des ressentiments. Et puis je crois qu'il faut aussi regarder, un pays comme l'Argentine où, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, finalement, il y a des élections qui se sont produites de façon apaisée et on a un nouveau leader, Alberto Fernandez, qui arrive.
Donc, ouais, il y a aussi avec un ticket
compliqué,
avec Kirchner qu'on connaît quand même, qui a été présidente longtemps. Donc, on va voir les marges de manœuvre dont il va jouer réellement.
Elles vont être étroites, ouais. Mais il y a eu une transition, une alternance politique satisfaisante.
Si je reprends ce que disait tout à l'heure Marc Semeau à propos d'Evo Morales, dont il rappelait qu'il est resté effectivement 14 ans au pouvoir, quelle responsabilité dans la crise là? Parce que si on remet un tout petit peu les choses. Il a essayé à un moment de faire passer un référendum qui lui permettait de briguer un nouveau mandat. Il a perdu ce référendum à 51%, mais par le truchement d'une petite procédure judiciaire, il est parvenu justement à obtenir ce droit. Il a brigué ce nouveau mandat. Est-ce que là, on n'a pas une grosse responsabilité d'Evo Morales, quand même, d'une certaine manière, a trahi la décision des urnes?
C'est une grave erreur politique, il n'y a aucun doute. Une grave erreur politique qui est évidemment à l'origine des mobilisations qu'on a vues avant l'élection. Hein. Alors, ceci dit, les mobilisations en question qui viennent en particulier de la région de Santa Cruz et de l'extrême droite, ce qu'il faut quand même dire avec un leader qui est arrivé au Parlement là avec la Bible et en célébrant la restauration des valeurs du Christ au sein du Parlement, dont on voit et qui a des antécédents racistes absolument clairs dans la région. Donc tout cela est quand même organisé, orchestré. C'est une région qui, depuis très longtemps, est opposée, hein, y compris opposée au fait qu'on ait un président indigène, opposée au droit. Bon, donc, mais il a une écrasante responsabilité parce que il pouvait parfaitement organiser sa succession. Il aurait pu parfaitement faire en sorte
s'appuyer sur ses résultats économiques.
Tout à fait. Il avait été élu auparavant avec 60% des voix, donc les marges de manœuvre étaient importantes.
Marc Semeau, puis Sébastien Velu.
Je reviens à cette idée. Il y a quand même partout, et c'est quand même très frappant, et dans ce que vous dites, c'est évident, une polarisation de plus en plus forte. C'est-à-dire avant, il y avait eu justement cette époque de la grande vague rose en Amérique latine, où il y avait des gauches qui étaient finalement, notamment le parti des travailleurs au Brésil, on était un peu le modèle, qui étaient à la fois des gauches souvent assez rhétoriques, mais en même temps très sociales, menant une politique de réforme, finalement plutôt social-démocrate. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une polarisation où d'un côté, toute une partie des gauches, d'une manière ou d'une autre, se retrouve avec le Venezuela, hein, même si ce n'est pas leur modèle, et de l'autre, des droites qui sont de plus en plus, ostensiblement, alors quasiment fascisantes, au moins au niveau des mots, comme peut l'être Bolsonaro au Brésil, et surtout ultralibérales en économie, Pineda, et la politique d'ailleurs économique du Brésil. Donc, est-ce que c'est... On ne voit pas aujourd'hui à la fois des sociétés et un continent en train de se casser en deux.
Sébastien Velu.
Oui, effectivement, et un des drames de l'Amérique latine, c'est la capacité d'avoir des gouvernements réformistes et qui respectant les institutions sur le long terme. C'est ce que vous venez de dire, et on retrouve cet affrontement effectivement dans ce qui est en train de se passer actuellement en Amérique latine. Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, Florian, populisme, en fait, c'est même plus du populisme, c'est ces régimes de droite qui arrivent, parce qu'ils ne prétendent plus parler pour l'ensemble du peuple. C'est franchement des régimes autoritaires et qui se réclament de ces deux valeurs extrêmement conservatrices.
Bolsonaro a déjà glissé dans l'autoritarisme pour vous?
Pour moi, il a toujours été, c'est-à-dire il n'a jamais prétendu avoir une représentation populaire large que avaient d'autres leaders populistes qui étaient des acteurs de transformation profonde.
Jeannette Abel, sur la fracturation que disait Marc Sémo.
Elle est incontestable.
Politique et sociétale.
C'est presque un lieu commun de dire que l'Amérique latine est un continent où les inégalités sont majeures. On sait que le Brésil est probablement un des pays les plus inégalitaires du monde. Et on sait également que la fiscalité est une fiscalité qui n'a jamais vraiment été réformée et donc qui encourage justement non seulement la croissance des inégalités, mais la croissance de la corruption. Alors je suis d'accord.
Mais ce que disait Marc à propos de quasiment la tectonique des plaques qui se met en... C'était étonnant de le voir sur la crise bolivienne où tous les partis, les forces de gauche font bloc derrière Morales, tous les partis de droite font bloc. On voit qu'il y a une véritable tectonique qui s'est mise en place direct. Effectivement, l'un des premiers gestes du nouveau gouvernement bolivien, c'est de reconnaître le Juan Guaido au Venezuela.
Oui, mais ça, franchement, en Bolivie, enfin moi j'ai été en Bolivie il n'y a pas très longtemps, il faut comprendre l'apport immense, parce que alors, le bilan critique de Morales fait aucun doute, mais l'apport immense qu'il a représenté pour les Indiens boliviens, qui sont quand même la majorité de la population.
Ça a pour été... tout le monde, un PIB multiplié par 3, une pauvreté divisée par 2, pour tout le monde.
Et le bilan économique, écoutez, Le Monde, il y a 15 jours, donc c'est pas vieux, titrait justement sur le bilan extrêmement positif de Evo Morales sur le plan économique et social.
Il n'empêche qu'il a truqué les élections.
Alors, et surtout qu'il les a perdus. Alors comment expliquez-vous?
En les truquant.
Il les a truqués.
Mais s'il ne les avait pas truqués, voilà. Mais en tout cas, il y avait un désaveu au niveau du vote.
Attention, le problème concerne le fait que tout d'un coup, après le premier tour, où il a 45% des voix et où Carlos Mesa en a 33%, après le premier tour, tout d'un coup, problème, suspension, n'a pas les résultats, etc. Et on dit qu'il y a 10% d'écart, ce qui lui permet d'être élu. Mais au premier tour, personne n'a contesté, il avait 45%. Mais ça montre quand même une chute très importante, parce qu'avant, il avait 60%.
Voilà, alors comment vous l'expliquez? Juste une seconde quand même. Le processus électoral, il a été vicié. C'est d'ailleurs ce qu'explique El País dans un rapport très détaillé qu'on peut consulter sur Internet. Le rapport d'audit du système électoral bolivien, il conclut au fait que le processus électoral en Bolivie a été vicié et nul.
Oui, mais moi j'ai le rapport, pardon Florian, j'ai le rapport du CEPR, c'est-à-dire du Center for Economic and Policy Research de Washington, qui était sur place et qui fait un rapport et qui ne dit pas ça, qui pose la question pour l'écart, pour l'élection du deuxième tour, c'est-à-dire pour l'écart de 10% qui permet de dire, etc.
Mais au-delà de ça, comment vous expliquez alors cette chute de popularité?
Je rejoins ce que disait Sébastien Velu aussi, c'est-à-dire qu'il a renégocié des contrats avec des multinationales, ce qui lui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent et qui lui a permis des politiques sociales importantes. Mais il a mené des politiques extractivistes qui ont suscité beaucoup, beaucoup de conflits avec une partie de son électorat, avec une partie de sa base sociale, avec les communautés indigènes. Et en Bolivie, je peux vous assurer que quand j'étais, il y avait déjà des dirigeants du MAS, et pas des moindres, les dirigeants de la guerre de l'eau et de la guerre du gaz des années 2000, qui protestaient contre ces politiques économique, et on sentait déjà... Alors, parce qu'il n'est effectivement pas sorti d'une économie de marché, il faut faire attention, je ne sais pas pourquoi on dit toujours le président socialiste, etc. Mais enfin, il est resté dans ce cadre, avec une politique de redistribution très importante, de reconnaissance des droits démocratiques des Indiens très importante, mais il n'a pas... était au-delà de ça sur le plan économique.
Sébastien Velu.
Oui, ce qui est frappant sur la Bolivie, et c'est pour essayer d'expliquer cette perte de popularité de Evo Morales, il ne respecte quand même pas le vote populaire qu'il avait désavoué quand il voulait se représenter, donc il y avait déjà un premier désaveu. Et puis, comme vient de le dire Jeannette Abel, effectivement, les 10 dernières années de développement de la Bolivie n'ont pas été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu des protestations fortes. On se souvient des marches indigènes pour défendre le territoire dit du Tipnis, du territorio Isiboro Segure, qui devait être traversé par des voies, des routes pour exporter notamment le bois. Tipnis, donc, il y avait beaucoup de tensions. Mais c'est vrai que Morales portait un discours avec un certain type de développement. Par exemple, il proposait que le lithium bolivien soit industrialisé sur place au lieu d'être exporté brut. Était-ce possible? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait un discours pour créer une économie, une industrie nationale plus complexe.
Peut-être encore un tout petit mot sur la Bolivie, et puis ensuite on va passer au Brésil, mais pour parler des États-Unis. Parce que... Morales, alors, il se trouve que l'administration américaine a reconnu assez vite le nouveau gouvernement. Oui. Morales a moyennement apprécié. Il a immédiatement fait un tweet dans lequel il a dit « Mais c'est pas normal que l'administration américaine reconnaisse ce nouveau gouvernement. C'est un coup d'État. » Et d'ailleurs, les États-Unis, au fond, ont fomenté, ont soutenu ce coup d'État. C'est à peu près ça qu'il dit dans son message. Comment comprendre ça, Jeannette Abel, et comment vous comprenez-vous la posture américaine vis-à-vis de cette crise et vis-à-vis plus généralement de l'Amérique latine de façon générale? On a vu un soutien assez franc et massif au début, en tout cas au début de l'année dans la crise vénézuélienne. Il y a eu ensuite les sanctions américaines sur le pétrole, mais on a le sentiment que depuis, au fond, le soutien américain est beaucoup moins évident à Juan Guaido. Est-ce que là, véritablement, on s'est mouillé sur cette affaire bolivienne, et est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une position de neutralité, d'attente? Enfin, c'est quoi la stratégie?
Non, d'abord, écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse contester le fait qu'il s'agisse d'un coup d'État militaire, y compris les dernières nouvelles. Le chef d'État-major Kalman a été remplacé par un autre général parce qu'il était trouvé, on le trouvait trop modéré. Donc désormais, c'est le général Orellanas qui a pris le pouvoir. Et d'autre part, je rappelle quand même que Jeanine Añez s'est présentée prétend avoir une succession conforme à la Constitution. Enfin, elle n'a quand même pas eu le quorum, et pour cause, parce que c'est le parti de Morales qui est majoritaire au Parlement. Alors, cela dit, je pense qu'il n'y a quand même aucun doute. Depuis qu'on a vu ce qui s'est passé au Brésil, depuis ce qui s'est passé avec Lula, avec Dilma Rousseff, ce qui s'est passé ensuite en Équateur, avec Lénine Moreno, etc., il y a une diplomatie trumpiste, je préfère presque dire ça plutôt que dire que c'est une diplomatie américaine, parce qu'elle est contestée aux États-Unis par beaucoup de monde quand même, qui est une diplomatie qui vise à battre en brèche l'émergence de ces gouvernements, quelles que soient leurs limites d'ailleurs à ces gouvernements. Et cela, on le voit, je pense que là, la reconnaissance... Alors maintenant, on est au temps, je ne sais pas susciter de trop de débats, mais enfin, au temps des présidents autoproclamés, enfin, quelles que soient les critiques, hein, Maduro, etc. Mais enfin, bon, Guaido, alors maintenant Jeanine Añez, c'est-à-dire le respect de la Constitution et des institutions est un vrai problème pour la diplomatie de Donald Trump.
Sébastien Velu.
Je crois qu'il faut faire attention en utilisant le mot coup d'État, comme vient de le faire Jeannette Abel, parce que moi j'ai fait un sondage auprès de mes étudiants, j'aurais demandé à votre avis, c'est que c'est un coup d'État, ils étaient divisés, à peu près moitié-moitié, et un gros tiers ne voulait pas se prononcer. Et on voit bien que dire c'est un coup d'État, c'est s'inscrire dans une certaine logique de discours pour dénoncer ce qui vient de se passer en Bolivie, et qu'il faut être attentif aussi, parce que Morales part alors qu'il n'est plus président, qu'il n'a pas véritablement gagné d'élection. Donc il y a un vide institutionnel à ce moment-là, une crise institutionnelle dont profite l'opposition pour l'écarter. Donc attention à ces termes, hein, c'est pas Allende chassé par l'armée du palais de la Moneda. Donc il y a une typologie des coups d'État en Amérique latine.
Et Evo Morales n'était plus président quand il...
Ah, il était président jusqu'à fin janvier.
Jusqu'à fin janvier, ah oui, avant d'être... mais il avait... tant de pas remporter l'élection au premier tour. Donc il y a des subtilités auxquelles il faut être attentif. et j'ai utilisé moi-même d'ailleurs le mot coup d'État de notre antenne. Après, sur les États-Unis, pendant les années Obama, au début, il y avait un certain négligence bienveillante vis-à-vis de l'Amérique latine, qui a aussi permis au gouvernement de gauche de s'installer. Aujourd'hui, les interventions sont beaucoup plus directes. Le lien entre Trump et Bolsonaro est clair. Le premier voyage que Bolsonaro fait, c'est aux États-Unis, juste après avoir été élu. Et là, même si on n'a pas d'éléments précis pour dire si les États-Unis sont intervenus ou non dans la crise bolivienne, par contre, la Colombie a fait pression et la Colombie a toujours été quand même l'allié le plus proche des États-Unis dans la région.
Et alors du coup, comment sortir de là? Parce qu'on imagine bien que les États-Unis sont de facto disqualifiés, ils ne peuvent pas se poser en médiateur dans cette crise bolivienne. Qui imaginer pour sortir le pays de cela?
Il y a déjà des pays, je pense qu'on a probablement le même avis, qui en tout cas le Mexique en premier lieu, probablement l'Uruguay aussi. La future présidence argentine ont pris des positions. On va voir.
Et un des problèmes que vous posez, c'est que actuellement les institutions multilatérales en Amérique latine ont été extrêmement fragilisées.
Absolument.
L'OEA est centrale dans la crise en Bolivie, donc il est difficile qu'elle soit médiatrice. Et l'Union des Nations du Sud, l'UNASUR, est en train d'être démontée par la Colombie qui a choisi de la quitter.
Il n'y a pas d'autres acteurs, la communauté andine des nations par exemple, ça ne serait pas
un acteur politique majeur.
La communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, là c'est l'AC non plus.
Malheureusement tout ça est en crise, que dit Sébastien Velu. Et l'UNASUR, c'est très dommage parce qu'en 2008, l'UNASUR avait joué un rôle très important dans la crise justement à Santa Cruz avec une extrême droite fascisante, pour dire les choses clairement. Et là, l'UNASUR est pratiquement démantelée. Juste un mot, Florian, les BRICS se sont tenus il y a juste quelques jours. C'est un événement très important qui a été un peu passé sous silence. Mais enfin, il y avait présent là Xi Jinping pour la Chine, Poutine pour la Russie, Modi pour l'Inde, le président sud-africain et Bolsonaro. Pour les États-Unis, pour Washington, ce n'est pas une petite affaire que cette présence chinoise sur le sous-continent.
Raison pour laquelle, d'ailleurs, les partisans de Juan Guaido sont allés devant l'ambassade vénézuélienne à Brasilia, sont rentrés. Il s'est passé quelque chose, on n'a pas très bien compris. Finalement, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais effectivement, ce Venezuela s'est directement invité dans ce sommet des BRICS, où évidemment, on est très divisé sur la question vénézuélienne, puisque le Brésil n'a absolument pas la même position que la Chine et la Russie sur la crise vénézuélienne. On va en parler justement de cette crise vénézuélienne. On est en partenariat avec l'association Cartooning for Peace. Le vendredi, on sélectionne un dessin sur notre thème du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux. Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Alors ce matin, le dessin dont vous nous parlez illustre bien ce cercle vicieux qui s'est installé au Venezuela.
Oui, et l'auteur de ce dessin, le néerlandais Martin Wolterink, a voulu montrer que tout est une question de point de vue. C'est en effet un cercle vicieux pour la grande majorité des Vénézuéliens, mais pour Nicolas Maduro, c'est un cercle vertueux. Le président vénézuélien trône au milieu de cette caricature, il a le visage serein et les bras grands ouverts comme s'il se posait en sauveur de son pays. Sauf que les petites scènes qui l'entourent montrent une toute autre réalité. En haut à gauche, une électrice s'apprête à remplir un bulletin de vote qui sera vide de sens. Elle se trouve dans un semblant d'isoloir paré de plusieurs affiches à l'effigie de Nicolas Maduro. Juste en dessous, le dessinateur a écrit « élection » en prenant soin d'ajouter de nécessaires guillemets. En effet, il a croqué ce dessin en mai 2018, juste après l'élection présidentielle qui a permis à Nicolas Maduro d'embrayer sur un nouveau mandat de 6 ans. Non seulement la victoire du président sortant était contestée, et l'est toujours, mais en plus, il avait empêché une partie de l'opposition de se présenter. Ses opposants, d'ailleurs, il les a mis derrière les barreaux, comme le rappelle le prisonnier en haut à droite du dessin. Et tandis que Nicolas Maduro surfe sur un puits de pétrole dont il veut augmenter la production, son peuple continue de s'enfoncer dans l'extrême pauvreté. En bas à droite du dessin, des centaines de Vénézuéliens contraints à l'exil fuient la Colombie. Bolivie. En bas à gauche, un seul œuf atteint le prix exorbitant de 10 000 bolivars. C'est le symbole de l'inflation, de la perte du pouvoir d'achat que plusieurs augmentations du salaire minimum n'ont pas suffi à compenser. Et dans ces conditions, avec une opposition muselée et un peuple qui meurt de faim et boude les urnes, Nicolas Maduro pourrait bien continuer ainsi, rester au pouvoir, sauf si les manifestations reprennent et que l'opposition parvient un jour à le mettre à la porte.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois. Évidemment, ce dessin, on va le publier sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction, Jeannette Abel, Sébastien Velu, autour de ce dessin. C'est vrai qu'il y a quand même un mystère vénézuélien. Ça fait maintenant des années que la crise a commencé. Les premières manifestations 2014, la Salida pour justement essayer de faire tomber ce régime ne s'arrête pas. Malgré l'inflation absolument incroyable, quasiment 1 million de pourcents, malgré l'enfermement des opposants, malgré l'exode, parce que c'est carrément un exode, là c'est des millions de personnes qui s'en vont, et ben il est toujours là Maduro.
Oui, le seul parallèle que je ferais entre la situation vénézuélienne et Maduro et Evo Morales, c'est plus un problème de stratégie de développement en Amérique latine. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une question très compliquée pour n'importe quel gouvernement dans ce continent, et notamment parce que les politiques extractivistes, alors que ce soit le pétrole au Venezuela, le gaz ou le lithium hein, en Bolivie, bon, non seulement à cause de la chute des matières premières, mais parce que tout ça est rend des pays extrêmement vulnérables. Après, il y a les pratiques politiques et les pratiques de pouvoir de ces dirigeants. Et en Amérique latine, je pense toujours que la tradition, enfin ce qui vient des guerres d'indépendance hein, d'il y a 2 siècles, c'est que reste une tradition du caudillisme. Enfin, en tous les cas, ces guerres d'indépendance ont été menées par des chefs militaires et les traditions institutionnelles, démocratiques, etc. sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et non seulement donc il y a une vulnérabilité économique, mais dans les deux cas, il y a un problème effectivement de conception et du pouvoir et des institutions et de la démocratie. Bon, et dans les deux cas d'ailleurs, on a des crises, mais avec une différence, et je termine juste là-dessus, c'est que Chavez avait décapité l'armée. Ce qui explique qu'il y a une grosse différence entre le Venezuela et la Bolivie, c'est que l'armée au Venezuela n'a pas contribué au renversement de Maduro. Au contraire, c'est évident, c'est d'ailleurs des problèmes non résolus. C'est l'inverse en Bolivie. Et Morales n'a jamais... d'ailleurs, il a couvert de privilèges les militaires, mais c'est tout.
Sébastien Velu.
Par rapport à cela, effectivement, Juan Guaido, ça fait un peu plus d'1 an qu'il avait tenté de renverser Maduro. Ça n'a pas fonctionné, notamment parce que, comme vient de le dire Jeannette Abel, l'armée n'a pas suivi à ce moment-là. L'armée est restée fidèle au régime dans sa majorité, même s'il y a eu quelques défections. Aujourd'hui, les Vénézuéliens continuent de quitter leur pays, notamment vers la Colombie et puis vers d'autres pays d'Amérique latine. Et ce qui est extrêmement préoccupant, c'est qu'on ne voit pas de sortie actuellement. Et j'ai l'impression que le fait qu'un certain nombre de pays, dont la France, se soit précipité pour appuyer Juan Guaido dans sa tentative de renverser Maduro, plutôt que d'aller justement se poser en intermédiaire pour chercher une solution négociée, a durablement bloqué les choses. Et il n'y a pas d'élection au Venezuela avant 5 ans.
C'était possible ? Il y avait une marge de manœuvre ? Il y avait un acteur qui pouvait se poser en médiateur ?
France, tous les Européens.
Tous les Européens qui ont voulu.
Les Européens auraient pu se poser en médiateur dans la crise vénézuélienne, Sébastien Velu ?
Il me semble que c'était une option plus intéressante que de se poser tout de suite derrière Juan Guaido.
Est-ce qu'il y avait l'espace d'une médiation ?
Mais Zapatero a essayé. L'ancien premier ministre espagnol, il a essayé hein, pendant un temps. L'Espagne a un rôle très important quand même en Amérique latine. Moi, je voudrais juste souligner une chose. On a eu une discussion à l'Institut d'Amérique latine sur le fait qu'on ait reconnu un président autoproclamé, mais que surtout la diplomatie française, elle reconnaît des États, elle ne reconnaît pas des individus. Je pense que ça aussi a été très, très, très négatif, le fait que la France et les pays les européens... La position de l'Espagnol sur Bolivie est beaucoup plus nuancée, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Hein.
C'est-à-dire ?
Une condamnation en tous les cas. La position officielle du gouvernement, c'est de non seulement de ne pas reconnaître Jeanine Agnès, d'inviter à la modération, etc., mais de pas. Il y a une condamnation de l'intervention militaire.
Bon. Il y a une position française
qui est sortie dans El País. Hein.
Est-ce qu'il y a une position française sur cette.
Non,
j'ai pas vu non plus.
Logiquement, je pense que ça va être un peu sur la même ligne que la position espagnole, parce qu'on n'aime pas. les interventions militaires, même si elles disent, nous suggérons à Evo Morales de démissionner. Voilà, donc en tout cas, c'est évident que les Européens vont condamner l'un et appeler à des élections rapidement, etc. Ce qui est un peu les éléments de langage de base de la diplomatie européenne, française, mais aussi des autres dans ce genre de situation.
Sébastien Velu, il nous reste une petite dizaine de minutes. On n'a pas encore, un petit peu, on l'a évoqué, mais le Brésil, il y a quand même aussi là un séisme politique peut-être qui s'est déroulé, puisque Lula a été libéré, ça y est, après plusieurs mois d'emprisonnement. Oui. Alors, il est sorti, on l'a vu, il est prêt à retourner dans l'arène, il est prêt à retourner au combat.
Mais est-ce que ça signifie qu'il peut gagner pour autant?
Alors, attends une seconde, Marc, c'est bon. Mais justement, d'abord, que vous inspire cette sortie, cette libération, Sébastien Velu? Quelles conséquences politiques pour le Brésil et peut-être même au-delà? Parce que là encore, on parlait de tectonique des plaques, mais on a vu toutes les gauches du sous-continent saluer cette libération.
Effectivement. Alors d'abord, deux choses. On a Lula, avant d'être emprisonné, a réclamé sur le fait que tant qu'il n'avait été pas condamné définitivement, il ne devait pas être incarcéré. Et la justice a fini par lui donner raison, mais trop tard, puisque il n'a pas pu se présenter.
Bonne nouvelle, la justice est indépendante au Brésil.
Ouais, mais elle met du temps à se rendre compte qu'elle est indépendante. Et en même temps, on a eu il y a quelques mois des éléments qui montraient que toute l'instruction du dossier avait été faite à charge et que les juges avaient été pilotés pour faire une instruction à charge, notamment celui qui est actuellement ministre de la Justice.
Donc ça, Sergio Moro.
Voilà, ça entache quand même cette procédure contre Lula de forts soupçons. Alors, que peut-il faire? Je crois qu'on peut mentionner ici l'existence de ce qu'on appelle le groupe de Puebla, c'est-à-dire des dirigeants qui souhaitent incarner une alternative qu'ils appellent eux-mêmes progressiste. Alors c'est un mot dont je me méfie, parce qu'il faut se méfier des mots qui tournent trop, mais qui réunit notamment Alberto Fernandez et puis Marco Enrique Sominami du Chili, donc qui essaye de penser un peu différemment à la politique en Amérique latine. Je pense que Lula peut être un allié vraiment de poids pour une dynamique du continent.
Jeannette Abel, vous allez vous occuper de la question très embarrassante de Marc Semo. Lula peut-il gagner? Effectivement, il va y avoir des élections dans pas si longtemps. Il faut rappeler qu'il était le favori des sondages avant d'être mis hors de course pour la précédente élection.
Il a eu un parcours assez remarquable, parce que ses partisans au départ ne voulaient pas qu'il aille en prison. C'est lui qui a décidé qu'il fallait aller en prison, et qui était un choix politique absolument excellent, parce que ça lui donne une légitimité face à, en plus, un ministre de la Justice, Sergio Moro. Comme l'a dit Sébastien Velu, cette histoire est une opération assez scandaleuse.
Maintenant, il y a les preuves. Il y a les échanges de mails entre Sergio Moro, c'est clair.
Voilà. Dans The Intercept, on a vu tout ça apparaître très clairement.
Avant, c'était que des hypothèses, ça y est, c'est clair.
Oui, bien sûr. Et maintenant, il sort avec quand même un vrai prestige, même renforcé. D'autre part, il a toujours des procès sur le dos, dont personnellement, je ne sais pas d'ailleurs très bien quoi penser sur la réalité des accusations. On n'a pas beaucoup d'éléments. Mais je pense que s'il y avait des élections, avec maintenant ce qu'est Bolsonaro, s'il y avait des élections bientôt,
il
pourrait effectivement les remporter.
Alors, Marc Semo.
Oui. Il y a aussi un rejet de Bolsonaro qui commence un peu à monter au niveau électoral, même s'il reste quand même assez populaire. Mais en même temps, ce qui s'était passé, il y avait eu quand même, de la part de l'électorat, un espèce de ras-le-bol vis-à-vis du PT, qui était très très fort, qui était à la fois parce que justement la politique sociale, la politique de réforme n'était plus possible, mais surtout il y a un élément que l'on oublie tout le temps, qui est celui de la violence. C'est-à-dire la société brésilienne, au niveau de sa violence quotidienne, ce sont... Sur ce qu'ont été les années du PT, ça a été des dizaines de milliers de morts. C'est quasiment une guerre civile au niveau des voilà. Et les premières victimes en sont paradoxalement cette petite classe moyenne enrichie grâce à la politique de Lula. C'est-à-dire, eux avaient un peu d'argent, eux n'avaient pas assez d'argent pour vivre dans les quartiers réservés, avoir les voitures blindées, les hommes pour les protéger. Donc c'était eux qui étaient les victimes de la délinquance. Donc cette espèce de lame de fond qui a amené justement ce rejet du PT, finalement, elle est toujours là.
Sébastien Velu.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme vous venez de le dire, les politiques sociales plus redistributives qu'a pu avoir le Brésil, mais qu'ont pu avoir le Chili aussi, là, il y a des parallèles à faire, elles créent une classe moyenne, une toute petite classe moyenne, qui a des nouvelles demandes politiques et électorales que le PT n'était plus forcément en mesure d'y répondre. Et on voit apparaître notamment dans l'opposition à Lula et au PT, cette petite classe moyenne qui vit dans des maisons cadenassées avec trois grilles parce qu'ils ont peur de se faire voler le peu qu'ils ont, qui sont prêts à sortir leurs armes s'ils sont attaqués, et qui du coup ont été aussi les électeurs de Bolsonaro il y a 4 ans. Au Chili actuellement, et je me permette de sauter sur ce pays, mais là, il y avait des demandes aussi de cette petite classe moyenne qui se sentait menacée parce qu'elle disait, est-ce que je vais pouvoir payer l'école, est-ce que je vais pouvoir payer la santé, est-ce que je vais pas me faire attaquer dans la rue, et aujourd'hui qui ont peur de ces manifestants qui sont aussi prêts à réagir.
Juste revenir sur ce point, il y a aussi une radicalisation au niveau des prises de position politique de la gauche, y compris de celle de Lula, y compris par rapport au Venezuela, qui offre quelque part une autoroute au pouvoir pour dire, regardez, ils veulent faire comme au Venezuela, regardez le résultat.
Ou non. Et c'est d'ailleurs déjà un discours qu'on
entend.
Bien
sûr, et tout le discours actuellement en Amérique latine, c'est de dire, il y a une conspiration qu'on appelle castro-chaviste, dont peut-être que Jeannette Abel fait partie aussi, mais elle ne l'avouera pas à l'antenne, pour déstabiliser le continent.
Non, je ne fais pas partie de la conspiration castro-chaviste, et je n'aime pas beaucoup le complotisme, mais j'ajoute quand même le problème de la sécurité, de la délinquance, du trafic de drogue, etc., est un problème majeur maintenant. On le voit pas seulement au Brésil, la violence dans les favelas, etc., dans les faubourgs, enfin dans les banlieues, dans les bidonvilles plus précisément, est un problème terrible. Je ne parle même pas du Mexique, où on atteint, je pense, des sommets de ce qui devient presque un narco-État, enfin. On pourrait nuancer un peu, mais enfin, il y a quand même quelque chose de ça. Et ça, aucun de ces gouvernements, ni au Brésil, ni au Venezuela, ni en Colombie, enfin, on peut les prendre tous, n'a réglé ce problème. Et c'est une délinquance maintenant qui provient aussi de la précarité, qui provient de la misère, qui provient de la drogue qui se répand. Bon, y compris, même en Bolivie, il y a eu une augmentation des surfaces cultivées de la coca. La coca en soi n'est pas le problème, mais la cocaïne, oui. Et donc, la structure même de ces formations sociales est maintenant un problème politique. Et un problème politique auquel ces gouvernements n'ont réussi. L'aspiration normale au Chili, la chanson de Victor Jara qui a été reprise, c'est « Nous avons le droit de vivre en paix ». Qui a été l'hymne des manifestations. Et c'est une aspiration fondamentale, mais qui renvoie aux problèmes économiques et sociaux de ces sociétés-là.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta.
Vous n'avez pas celle-là, Jeannette Abel, dans votre playlist? Cette chanson?
Je dois dire que je n'ai pas reconnu.
Eh bien écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inscrire dans une playlist sur Internet, dans Spotify. On fait maintenant des playlists pour justement que les auditeurs puissent retrouver les musiques qu'on passe. Ça, c'est un rap urbain qui nous vient de Puerto Rico. Voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça.
Bon, merci. C'est un héritage de Alexandra Ocasio-Cortez, peut-être.
Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être. Merci beaucoup à tous. Jeannette Abel, Sébastien Velu, Marc Sémo. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.